nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Laurence Equilbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez fondé le Chœur de Chambre Accent Tous, c'était en 1991. Vous avez fondé plusieurs ensembles vocaux, tels que l'ensemble Axe 21, le Jeune Chœur de Paris. Et puis vous êtes surtout connue pour avoir fait redécouvrir, en quelque sorte, le répertoire a cappella du 19e et 20e siècle. Mais pas seulement, vous passez également une partie de votre temps à diriger des orchestres symphoniques et puis aussi des opéras. Et puis, dernier événement discographique en date, vous venez d'enregistrer les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn. Alors, pour revenir juste sur ce dernier enregistrement, pourquoi vous qui travaillez surtout sur des œuvres du 19e et 20e siècle, pourquoi revenir à un répertoire très classique, en plus avec orchestre? C'est assez différent de votre répertoire habituel?
C'est-à-dire, aux deux tiers de notre activité, en tout cas avec mon groupe Accentus, c'est vrai qu'on s'oriente plus vers la musique romantique et ensuite le post-romantisme, le sérialisme, la musique contemporaine. Bon, voilà, ça c'est avec l'effectif traditionnel. Mais on a certains chemins de traverse où effectivement on est un petit peu obligé de casser le groupe traditionnel pour prendre un groupe plus stylé 18e. Et on fait souvent des incursions jusqu'à Bach ou Mozart. On va pas tellement avant parce qu'après c'est quand même d'autres spécificités vocales et d'autres techniques. Mais en tout cas, moi j'aime bien avoir de temps en temps des projets de cette époque parce que j'aime beaucoup le 18e aussi. Donc au 18e, comme chacun sait, la cappella n'est plus du tout en vogue. Donc c'est avant tout la musique orchestrale symphonique et effectivement des oratorios du type des 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn qu'on avait donné de nombreuses fois en concert et qu'on a vraiment eu envie de graver avec l'Académie für Alte Musik de Berlin.
Ça veut dire que vous prenez par exemple des choristes qui sont différents de ceux de la configuration habituelle d'Accentus?
C'est-à-dire dans les chanteurs, vous avez des chanteurs généralistes. Et puis, vous avez des spécialistes. Donc, enfin, les voix sont typées. Alors, vous avez des voix qui peuvent vraiment épouser un grand répertoire. Et puis, d'autres qui sont plus typées pour des questions aussi, soit qu'elles sont très, très charnues, ou de vibrato, ou de couleur. Elles sont plus typées pour aller dans un Brahms, Schumann, ou... Et forcément, dans la musique du 18e, comme très souvent, c'est surtout dans les voix de femmes qui étaient souvent tenues par des garçons. Et maintenant, esthétiquement, on aime bien les choses assez droites, des voix assez fines. Surtout dans les mezzos aussi, on évite d'avoir des voix trop lourdes et on remplace souvent par des contre-ténors ou des choses comme ça. C'est pour donner un son, un stylet un tout petit peu plus vif, vous voyez, et pour épouser plus l'esthétique de l'époque, en tout cas ce qu'on imagine. Et surtout d'être plus en phase aussi avec des orchestres baroques, parce que moi, toute cette musique, je l'interprète en général avec des orchestres sur instruments d'époque. Et vous pouvez pas mettre un chœur assez charnu, même si c'est un chœur bien réglé, avec des cordes en boyau, ça se marie pas bien. En fait, sur cette œuvre que j'adore vraiment, c'était d'abord une œuvre écrite pour quatuor à cordes. Donc c'est 7 adagios qui commentent les 7 dernières paroles. Et au départ, il n'y avait pas de texte. Et ensuite, Haydn a rajouté donc un texte. Il y a eu une version avec orchestre, puis une version en chœur orchestre soliste.
Est-ce que c'est très différent de travailler, j'imagine, à cappella et puis avec un orchestre? Ça n'a rien à voir.
Oui, c'est très très différent. D'abord, à cappella, vous devez avoir une sorte de gestuelle qui aide. C'est un petit peu comme un liquide dans l'air, vous voyez. Donc, il ne faudrait pas qu'il tombe par terre. Donc, vous êtes toujours un petit peu obligé de le tenir, de le soutenir, de lui donner des formes. Voilà. Et alors qu'avec orchestre, vous avez toujours une sorte de machinerie rythmique qui est là pour soutenir l'harmonie. Et les voix, vous avez beaucoup, beaucoup moins besoin d'alimenter chaque temps, en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien faire les deux, parce que c'est comme vraiment deux disciplines totalement différentes. Alors évidemment, il y a un tronc commun, évidemment, ne serait-ce que dans l'énergie, dans les schémas de battus, etc. Mais par contre, au niveau gestuel, c'est vraiment très, très différent.
Vous voulez dire que les voix même sont différentes lorsqu'il y a un orchestre qui soutient le chœur?
Oui, le tissu n'a pas besoin d'être aussi homogène et compact quand l'orchestre est là. On peut être un tout petit peu plus avec la mise en relief de texte ou voilà. Dans ce que la cappella, c'est un tissu très raffiné parfois, mais où la petite moindre dépression peut s'entendre et peut faire que tout se casse la figure. C'est vraiment comme être sans filet, en fait.
Thank you.
La plupart de votre répertoire, c'est comme 19e et puis 20e siècle. Et j'aimerais surtout aborder avec vous la création contemporaine et les œuvres contemporaines. Est-ce que c'est très différent d'interpréter une œuvre de Joseph Haydn? Ça n'a plus rien à voir.
La musique d'aujourd'hui, vous voulez dire, par rapport à la musique d'aujourd'hui? Oui, en fait, les canons esthétiques ne sont pas du tout les mêmes. Le langage est complètement différent parce qu'on est sorti du système tonal. Effectivement, quand je vois, par exemple, en ce moment, nous, les créations qu'on génère, là, justement, on est dans une série de créations avec l'IRCAM dans le cadre du festival Agora. Et donc, là, je sors d'une répétition et on fait 3 créations et il n'y avait aucune ligne directrice sur ces 3 œuvres. Il n'était pas question qu'il y ait un thème commun ou des choses comme ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que les trois œuvres sont des œuvres qui vraiment sont des rites funéraires. Et encore, des rites funéraires pas forcément occidentaux, qui font appel effectivement à des techniques vocales assez inusitées pour nous autres occidentaux. Parfois, ça fait référence même à d'autres cultures qu'on peut rencontrer dans les îles Kéroé. Alors après, vous devez un peu éduquer les chanteurs en leur faisant écouter des choses de disques de musique du monde ou de choses comme ça. Il y a beaucoup de cris, beaucoup de glissandi, beaucoup de voix comme ça. Enfin, ça, c'est pour les pièces qu'on est en train de faire ici. Hein. En plus, avec Electronic Live, donc vous avez en même temps, par exemple, dans une des pièces qui s'appelle Clama de Georgios Spyropoulos, vous avez en même temps des bruits de la ville qui sont évidemment très dessiné, parce que c'est une bande électronique, tout ça, donc tout ça est très dessiné, mais mélangé avec les voix, le traitement électronique en temps réel de la voix, ça fait une sorte d'œuvre très épique, qui n'a absolument rien à voir, évidemment, avec une œuvre classique du 18e. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jazz vocaux que des chanteurs sont très ouverts à faire, et puis d'autres plus classiques, un, deux, ils ont un peu mal à sortir de canons traditionnels lyriques. Voilà, moi, ça, c'est intéressant de voir comment les chanteurs réagissent à ça.
Oui, parce que vous faites un mélange un peu entre les deux aussi. Dans vos concerts, parfois, vous mélangez les deux sortes de répertoires.
Oui, tout à fait. On mélange très souvent. Moi, j'aime bien quand même les concerts. Alors, j'aime beaucoup les concerts comme ça, avec seulement des créations, c'est très vivifiant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que à diffuser, c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que de temps en temps, dans des concerts avec du répertoire patrimonial, c'est bien si on fait 10 minutes de création ou 2 créations. Enfin, on en fait presque systématiquement maintenant, nous.
Quand vous travaillez, vous, avec votre cœur, comment vous répartissez le temps entre le travail classique sur la voix et puis cheminer avec les choristes vers ces nouvelles formes vocales?
C'est-à-dire, y a des canons techniques, enfin, y a des principes techniques qui passent les siècles, de toute façon, depuis plusieurs générations maintenant. C'est-à-dire les questions de justesse, de précision rythmique, les questions de balance très importantes, les questions de fusion. Y a quand même toujours des paramètres qui sont valables pour toutes les musiques. Voilà. Après, on fait des recherches plus spécifiques pour des techniques et des expressivités qu'on n'aurait pas forcément complètement dans nos cultures. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui est un peu étrange. C'est vrai, on pourrait dire pour la création d'aujourd'hui, en tout cas pour certains créateurs, c'est que c'est vrai que visiblement, on doit faire appel à d'autres cultures pour enrichir la nôtre, quoi. Mais c'est pas une critique, hein, je veux dire. Je constate juste que l'inspiration, visiblement, naît de l'emprunt d'autres cultures.
Il y a des limites à ça, à cette diversité sonore, à cette diversité vocale? Vous sentez vous-même que parfois vous arrivez au bout des limites des choristes, ou il y a toujours une infinie de possibilités?
Bon, c'est plutôt des chanteurs, on va les appeler, parce que c'est quand même tous des professionnels. Moi, les limites que je verrais actuellement, en tout cas pour que le langage avance vraiment, c'est plutôt les prises de notes et les intonations spécifiques, tout ça. Alors, en ce moment, je suis en train de développer l'idée d'un diapason électronique à l'usage des chanteurs, justement, qui pourrait nous permettre d'utiliser des échelles un peu plus savantes, parce que le chanteur, pour l'instant, a toujours cette espèce de fourchette de diapason qui donne un la. Et on doit vraiment reconnaître qu'aujourd'hui, c'est assez handicapant pour une éventuelle avancée. Donc, je suis en train d'essayer de faire fabriquer un prototype et ensuite de chercher une société qui commercialiserait ça. Donc, toute aide est bienvenue, parce que je pense qu'une fois qu'on aura ça, on peut vraiment se dire qu'au niveau technique, on peut avancer beaucoup. Alors, les chanteurs seront jamais tellement comme les instrumentistes, dans le sens où les potentialités rythmiques sont moindres, parce que il faut les considérer un peu comme des cuivres. C'est-à-dire que les possibilités d'accolement des cordes sont pas si vives que peuvent être des percussionnistes ou même un oboïste, ou, vous voyez. Il y a quand même une certaine inertie rythmique. En tout cas, au niveau d'un pupitre, après un chanteur individuel pour faire des choses tout à fait fines et tout ça, mais au niveau d'un pupitre, c'est un petit peu limité. Et par contre, au niveau des intonations, je pense qu'on pourrait vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin, dans, notamment dans certaines verticalités. Et là, j'ai bien vu, par exemple, en faisant une œuvre de Philippe Manoury qui s'appelle Oniron, qui était aussi avec électronique en temps réel et qui était une œuvre très, très vaste sur des textes d'Héraclite, qui durait 1h15. En fait, il y avait une bande en même temps. Enfin non, c'était pas une bande, enfin, c'était vraiment de l'électronique lancée comme ça en temps réel. Il donnait lui-même des intonations très spécifiques qu'on n'aurait jamais pu calculer avec un diapason normal. Et ça faisait des triades parfois incroyables et des sons qu'on n'entend jamais avec les voix. Mais ça, on pourrait le réaliser sans le support de l'électronique si justement on avait cet appareil.
Vous avez beaucoup, beaucoup œuvré pour faire connaître la musique contemporaine vocale. On peut même dire qu'elle était quasiment inconnue avant que vous fassiez ce travail. Vous avez beaucoup œuvré pour que des musiques soient composées, d'ailleurs beaucoup pour vous. Mmh. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis 15 ans que Accentus existe ?
En fait, avant notre travail, il y avait quand même le groupe Vocal de France, mais qui a généré beaucoup d'œuvres pour ensemble, un par voix, du type du travail que fait actuellement les jeunes solistes avec Rachid Saphir ou bien Musica 13 avec Roland Erabedian. Mais c'est vrai que la musique contemporaine pour chœur de chambre, c'est-à-dire au moins 32 chanteurs, était très très peu visitée. Enfin, il y avait très peu de commandes pour multiples raisons, parce que d'abord, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y en avait pas, en fait, d'ensemble professionnel... Il y en avait un ou deux qui ont pu faire une commande de ci, de là, mais ça ne participait pas forcément d'un mouvement de fond important. On dit maintenant, il faut ça.
Un travail un peu systématique.
Voilà, et je crois qu'à la fois, il faut certains ouvrages majeurs qui arrivent pour ces instruments. Et puis à la fois, il faut aussi, c'est pour ça que le Jeune Chœur de Paris, on commande beaucoup aussi, des œuvres qui soient accessibles pour des étudiants ou bien des amateurs de haut niveau. Mais il faut deux types de difficultés, en fait, voilà.
Bon, il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour vous. Est-ce qu'il y a eu des compositions en résidence, un accompagnement quasiment quotidien ou
Ça non, mais par contre, quand on a un compositeur avec qui on a vraiment des affinités, que ce soit moi ou les chanteurs, on essaye vraiment de lui commander régulièrement des œuvres pour arriver à avoir au moins une heure de musique et pouvoir faire un disque monographique dans un avenir proche de ce compositeur. Mmh. Voilà. Ça a été le cas avec
Pascal Lussapin.
Avec Pascal Lussapin. Ça a été le cas avec Philippe Manoury. Je ne parle pas d'Oniron, hein, mais je parle des autres œuvres. Et puis, ça va être bientôt le cas, j'espère, avec Marco Stroppa, qui est un très très bon compositeur aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a plusieurs compositeurs comme ça. Il y a Bruno Mantovani avec qui on a plusieurs projets. Je pense qu'un compositeur est identifié comme un compositeur qui a écrit pour un instrument quand on est à peu près à une heure de musique pour l'instrument. Quand je parle d'instrument, c'est l'instrument cœur. Hein. Voilà, donc c'est à chaque fois un peu le but qu'on se fixe avec ces compositeurs. Alors on ne peut pas appeler ça une résidence, parce que nous, on est des ensembles semi-privés, on n'a pas tous les moyens d'avoir un compositeur en résidence, Mais par contre, un compositeur avec lequel on a vraiment une relation durable, oui.
Et quelles contraintes est-ce que vous fixez à un compositeur qui décide d'écrire pour vous ?
Alors, on a un cadre technique assez précis, parce que je me suis aperçue que si je ne donnais pas de cadre, après, parfois, c'est tout simplement qu'en production, on ne peut pas suivre. Parce que parfois, il y a des œuvres qui sortent qu'on n'arrive pas à produire parce que soit elles sont trop difficiles techniquement pour nous, par exemple, ou elles ne rentrent pas dans le cadre d'une économie de production normale. Donc ça, il faut quand même contrôler un peu le rapport technique de ce qu'on est capable de faire, surtout, tout en laissant quand même la porte très ouverte à plein de choses, hein. Et puis, il y a les limites de la voix aussi, et la fatigabilité. Hein. C'est un instrument très fragile, la voix, alors c'est un petit peu pénible, parce qu'effectivement, parfois, les possibilités, on est un peu contraint, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est un muscle, alors on ne peut pas faire tout ce qu'on veut.
C'est-à-dire que vous faites des œuvres plutôt courtes en étant a cappella.
De toute façon, le format a cappella, en général, c'est au-delà de 12 minutes, on fait un tout petit break. Alors parfois, vous pouvez avoir un cycle de 20 minutes où il y a des numéros, mais on est un petit peu obligé de faire une pause pour des questions, effectivement... physique. Vraiment, c'est très comparable au corps, ou vous voyez, au l'instrument corps. Donc, effectivement, donc on donne des contraintes. Et puis surtout, moi, je suis très attachée à générer des œuvres pour le cœur. Et une des peut-être dérives actuelles, c'est d'écrire pour ensemble. Alors, si par exemple, on dit qu'on est 32, on va se retrouver à 32 voix réelles ou des choses comme ça. Alors, c'est, moi, j'ai rien contre cette vision, mais je dis juste que du coup, ces œuvres-là, trop diffracté. Tout dépend si la diffraction est compliquée, mais si c'est compliqué, peut-être en France, il y a deux ensembles qui peuvent les faire, et encore, qui ont à la fois les moyens de production et de la technicité. Alors nous, on n'a pas vraiment de problème pour les faire, mais après, pour que ça rentre vraiment au répertoire patrimonial, c'est compliqué, parce que s'il n'y a que deux ensembles qui peuvent les faire, and so what, quoi, ça va être fait une fois chaque 5 ans, et je trouve que c'est trop peu. Alors ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à ce genre d'œuvre, hein, mais j'aimerais bien que la majorité des pièces qu'on commande soient des œuvres pour chœur.
Et au niveau du style musical, est-ce que vous mettez aussi des contraintes dans le sens où vous essayez d'avoir un répertoire assez diversifié, vous cherchez à avoir telle forme, tel style ?
Non, alors ça non, en fait. La seule chose, c'est que parfois, comme on injecte souvent une création dans le cadre d'un concert avec du répertoire patrimonial de l'époque révolue, parfois, on dit, bon, ben voilà, on fait un concert Schumann. Est-ce que ça te dirait d'écrire en allemand? Ou, bon, alors, par exemple, Manoury va écrire une pièce sur des textes de Trakl, quelque chose comme ça. C'est parfois les seules directions, parce qu'on ne peut pas mêler n'importe quoi avec n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une direction esthétique d'un concert, même si on mélange un peu les époques. Bon, ce qui tombe assez bien, c'est que, curieusement, les compositeurs français aime pas écrire en français. D'ailleurs, je crois qu'aucun compositeur aime écrire en français. Donc en ce moment, dès que vous les stimulez sur d'autres langues, ils sont toujours très contents. Par exemple, Mantovani a écrit un très très beau cycle sur des textes de Janos Pilinski, qui est un poète hongrois contemporain formidable. Parce qu'on faisait justement un concert, c'était Ligeti, et puis aussi Kodály Bartók Ligeti. Donc on n'allait pas faire tout d'un coup une prose française. Voilà.
C'est-à-dire que le répertoire français n'a pas trop de beaux jours devant lui ou...
Vous voulez dire la langue française?
Oui.
Bah, moi, j'aime bien commander en français, parce que c'est vrai que c'est, encore une fois, actuellement, c'est vraiment pas du tout une langue en vogue pour la composition, mais ce que je peux comprendre, parce qu'au niveau rythmique, c'est pas simple à traiter le français. Bon, déjà, il n'y a aucun accent tonique, comme chacun sait, puis il y a beaucoup de nasales, et puis il y a beaucoup de contraintes dans cette langue qui ne marchent pas, quoi. Donc, c'est vrai que les compositeurs souvent préfèrent l'anglais ou même l'italien, voir le latin, qui est une sorte de langue comme ça, un peu moderne, un peu... Quand on prend des textes latins profanes, ça, c'est vrai que ça a son impact. Les textes sur les Hermès Trismégiste, là, on avait fait tout un thème autour de la table d'émeraude. C'est donc un texte sur la transformation et tout ça, et personne n'y comprend rien, à la fois en français ou en latin, de toute façon, enfin, je dis que c'est une sorte d'alchimie, et tout est dans tout, et c'est un peu d'ailleurs comme Héraclite, au bout d'un moment... on comprend, hein, mais c'est vraiment des textes qui n'ont pas de pathos. Donc ça, actuellement, c'est ça qui est important.
Est-ce que la situation de l'art vocal de chœur de chambre contemporain aujourd'hui en France est très différente de ce qu'il est en Allemagne ou en Scandinavie? Vous qui avez quand même beaucoup voyagé et être formé à différentes écoles européennes, comment se fait la comparaison aujourd'hui?
Oui, la comparaison, elle n'est pas très bonne, c'est-à-dire que on est un peu très, très en retard.
On ne l'a pas rattrapé, alors?
Pas vraiment, parce que... c'est-à-dire, à la fois, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de groupes qui font de plus en plus de contemporains. Je pense, par exemple, bon, évidemment, à Accentus, il y a quand même Arcis de Bourgogne qui en fait. Il y a donc l'Écrit de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, qui travaille avec moi aussi au Jeune Chœur de Paris, qui fait systématiquement aussi des créations. Enfin, il y a de plus en plus de chœurs qui font des créations. Alors, je ne parle pas des ensembles de vocaux, hein, par voix, qui font aussi un travail formidable, mais on n'est pas dans le même instrument du tout. Donc, voilà, mais on est un peu une poignée. Il y a Loïc Pierre avec Microcosmos, soit j'en oublie sûrement, mais il y a quelques personnes comme ça. Mais en tout cas, au niveau professionnel, en fait, Accentus en fait. La radio, on fait un tout petit peu, mais il fait très peu de créations a cappella, donc ça, c'est aussi dommage. Et peut-être que ça va venir, hein. Il faudrait qu'ils en fassent plus, parce qu'ils ont plus les moyens de production que nous, pour à la fois faire des expériences, des tests, et tout ça. Nous, on ne peut pas trop se planter, quoi, parce que si on fait une œuvre, on crée une œuvre, on la produit, et si on s'aperçoit que finalement, elle ne rentre pas à notre répertoire, alors bon, ça sera toujours des expériences, mais c'est pas... on n'a pas beaucoup de moyens pour faire ça. Et... par contre, évidemment, en Allemagne, ils ont beaucoup, beaucoup plus d'ensembles professionnels, de chœurs professionnels. Donc, ils vont plus vite, ils ont plus d'outils. En Scandinavie, pareil. Donc, nous, en France, on manque juste d'outils. Il faudrait, à mon avis, en sécuriser quelques-uns rapidement maintenant, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu fatiguée du truc, quoi. Je ne veux pas non plus prêcher comme ça dans le désert toute ma vie. Bon, enfin, je trouve ça important. Je trouve que c'est un répertoire majeur et qu'il faut le défendre. Et puis, il faut créer toujours. Mais c'est tellement difficile d'avoir des groupes au plan financier et tout ça, que c'est vrai que si à un moment donné, il n'y a pas un déclenchement en se disant, bon, ok, on a compris, maintenant on rattrape le retard. En plus, les Français, on est très très bons, je trouve, pour... Enfin, les chanteurs français sont très ouverts, ils ont beaucoup de goût pour la texture, pour la couleur. C'est un peu, on se situe vraiment entre l'Angleterre et la Germanie scandinave, c'est-à-dire on a à la fois un grand goût pour tout ce qui est assez transparent, avec des registres très fins, et en même temps, on aime bien ce qui est chaud, rond, enfin... Je trouve qu'on a vraiment notre place esthétique dans tout ce milieu et qu'il faut d'abord arrêter de dire que les Français, ce n'est pas leur truc et tout ça. Ça, c'est quand même, comme dirait mon neveu, old school. Maintenant, ça va, quoi. On est en Europe et on sait faire. Voilà, et donc il faudrait juste maintenant qu'on décide une fois pour toutes que ce secteur est important et qu'on va le traiter comme un secteur important.
Pour parler de l'interaction avec le public, vos concerts marchent très bien, le grand public apprécie le travail que vous faites sur le contemporain. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'art vocal qui fait que ce soit plus accessible qu'une œuvre orchestrale, par exemple ?
Alors, pour le contemporain, je dirais que ce qui peut aider, c'est que d'abord, les œuvres souvent sont plus courtes, en tout cas pour l'a cappella, hein. Et que il y a souvent donc une densité un tout petit peu plus intéressante. Non pas que les orchestres soient bavards, mais c'est vrai qu'avec les instruments, on peut diluer beaucoup plus qu'on peut pas faire avec les voix, parce que pour des raisons aussi physiques et de.
Donc l'idée est plus ramassée,
voilà,
et plus facile à
saisir. Tout est plus compact, tout est plus ramassé. Et en plus, bon, effectivement, il y a le vecteur de la voix avec un texte, bon, qui peut être aussi quelque chose qui peut faciliter une communication avec le public. Il y a des grands effets qui sont des effets de catharsis. Il y a souvent avec les voix où effectivement il y a des cris, il y a des choses. Et puis il y a aussi des textures très 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 fines qui sont quasi instrumentales. Que c'est assez incroyable d'entendre des textures comme ça faites uniquement par un orgue à bouche comme ça. Bon, c'est vrai que c'est toujours des sensations de son assez exceptionnelles. Et je vous dis, le fait que ça puisse pas être très bavard, ou enfin peut-être que bavard c'est peut-être négatif, hein, en tout cas trop actif, je crois que les gens peut-être arrivent mieux à suivre ce qui se passe, tout simplement. Hein. Voilà, donc et puis encore une fois, la dimension des œuvres doit aider aussi, et le fait aussi qu'elles transmettent parfois, non pas un message, mais quelque chose, on peut se raccrocher à beaucoup de choses en fait avec la voix a cappella contemporaine.
Même si le message, souvent, au niveau du vocabulaire, les choses sont en langue étrangère, voire même en latin, donc à saisir au niveau de la compréhension, c'est plus difficile.
Alors nous, maintenant, on surtitre un peu tous nos concerts, donc on fait un peu comme à l'opéra, je trouve ça vraiment important, mais pour le contemporain, la tendance actuelle, c'est qu'en général, le texte, maintenant, c'est plutôt un coup d'archet ou quelque chose d'un peu en deuxième degré. On n'a pas énormément besoin de comprendre, maintenant, en ce moment, hein, c'est vrai qu'on n'est pas dans un rapport dramaturgique direct, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait, c'est vrai que ça serait assez démodé, mais en même temps, est-ce que ça doit toujours être opaque? Je ne sais pas, il y a peut-être une réponse. C'est pas évident cette question, moi je ne suis pas spécialiste pour en débattre, mais je sais que c'est un débat parmi les compositeurs.
J'ai l'impression, moi, que la musique contemporaine vocale reprend quelque chose de l'ordre du sacré, dans la pureté, dans l'approche.
Il y a une dimension souvent plutôt, je dirais, cosmique ou en tout cas de épique et souvent avec beaucoup de distance sur les choses. Bon, alors, une des autres tendances, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de compositeurs du tout qui écrivent avec du sacré. Hein. C'est pas une critique. Hein. Nous, on a fait juste un programme qui s'appelait Nouveaux Psaumes. On a commandé des psaumes dans la traduction d'Olivier Cadio et Marc Sévin dans la nouvelle traduction de Bayard, là, parce que je trouve que c'est une poésie merveilleuse, là, ce qu'ils ont fait. C'est très, très, très léger. Ça se rapproche un peu de l'impression qu'on a des psaumes dans leur traduction anglaise, je trouve. Mais c'était pas évident. Et d'ailleurs, la réponse au traitement du texte, la plupart ont complètement gommé le fait qu'on dise un psaume où c'était complètement incompréhensible, le texte, mais exprès, fait exprès. Hein. Donc, c'était diffracté ou bien... complètement caché, murmuré, on comprend rien. Enfin, voilà, c'est ça, actuellement. Je veux dire, les gens comprennent bien qu'un texte, même religieux, peut être utilisable. Hein, pourquoi pas? Mais la plupart du temps, effectivement, la question de sa compréhension n'est pas du tout en jeu.
Comment est-ce que vous voyez votre travail à vous dans quelques années et ce répertoire-là dans quelques années? Vous travaillez beaucoup aussi avec l'orchestre, avec l'opéra. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez plus approfondir?
En fait, j'aime bien avoir un opéra par an, diriger un opéra par an. Donc j'essaie de maintenir cette cadence. Et puis, en fait, le répertoire a cappella patrimonial est vaste, mais il n'est pas tellement immense qu'on peut en faire pendant 40 ans sans... Voilà, donc j'ai fait tous les grands ouvrages de ce répertoire, alors je n'ai pas tout fait encore, évidemment il y a des choses à faire, mais notamment dans les cultures un peu plus lointaines de nous, là on vient de faire un programme intitulé Nouvelle Europe, donc c'était des œuvres lettonnes et polonaises, donc à chaque fois on recule un peu les frontières pour la recherche patrimoniale, et je veux aussi faire beaucoup de créations toujours, mais... Parallèlement, le tiers qui me reste, je préfère carrément faire autre chose. Parce que là, j'ai beaucoup d'invitations aussi pour des chœurs étrangers, mais j'y vais très, très, très doucement parce que je préfère vraiment faire autre chose pour diversifier un peu mes sensations artistiques. Et donc, un opéra par an, quelques projets avec orchestre, avec ou sans chœur, enfin, ou avec soliste, ou des choses comme ça. Donc, ça j'aime beaucoup. Mais surtout, maintenant, j'aimerais beaucoup que mon groupe, en tout cas, ait des moyens de production tranquilles pour qu'on puisse faire des choses vraiment sereinement au niveau artistique. Voilà.
Et vous verriez travailler avec une maîtrise, avec de très très jeunes voix, ça doit être très différent, j'imagine?
Pas trop, c'est pas trop mon truc, les voix d'enfants, parce qu'il y a vraiment des gens qui connaissent ça très très bien, et j'adore les enfants, bien sûr, et les maîtrises, mais je pourrais faire, bien sûr, un programme avec eux, mais les faire travailler, non, c'est parce que c'est vraiment un métier de diriger les enfants. Mmh. Ouais. Avec le Jeune Chœur de Paris, j'ai créé une école, là, maintenant, qui est un département pédagogique important du CNR. C'est beaucoup grâce à Jacques Tadéhi, là, qui est académicien aussi ici. Et c'est des jeunes voix, mais c'est à partir de 16 ans. C'est des jeunes gens, quoi, en fait. Donc ça va, je sais m'en occuper.
Merci beaucoup, Laurence Equilbet, d'être venue.
Merci à vous. Merci.